Jeudi 11 novembre 2021, il vient d'être 17h et vous êtes en direct sur les zones de nos 47 radios partenaires pour l'édition en français. Monsieur Dame, bonsoir. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au micro, je suis Rukayat Abdraman. Au sommaire, suspension des activités académiques à Zender dans les centres de formation technique, l'Union nationale des contractuels de l'enseignement professionnel et technique de la région réclame le paiement du pécule du mois d'octobre 2021. La ville d'Agadez, confrontée ces derniers jours à une hausse des cas de COVID-19, le directeur régional adjoint de la santé se prononce dans cette édition. En partie magazine du journal, on parlera de l'impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire au Niger. L'armistice signé le 11 novembre 1918 a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Au Niger, chaque année, une cérémonie de pose de gerbes de fleurs au monument aux morts de Niamey est organisée en mémoire des soldats tombés. L'ambassadrice du Royaume-Uni, Catherine Ingelher, présente à cette commémoration, explique au micro d'Adama Dawaki.
Nous avons demandé de participer parce que le 11 novembre au Royaume-Uni, c'est une commémoration très très importante. C'est une commémoration de tous ceux qui sont tombés lors des guerres et des conflits, les militaires et les civils. Alors pour le Niger, actuellement, il y a une signification importante. Alors nous avons demandé la permission du ministre de la Défense de poser la gerbe ensemble avec le ministre et avec la France. Donc nous portons tous le petit coquelicot. C'est un symbole de commémoration de ceux qui sont tombés dans les morts parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y avait que les coquelicots qui réussissaient à pousser sur les champs de bataille. Depuis 100 années maintenant, au Royaume-Uni, nous portons tous le coquelicot pour les 11 jours de novembre avant le 11 novembre. On contribue une petite somme d'argent et la collecte qui est faite, c'est pour tous les militaires qui ont été blessés lors des guerres et qui sont dans les hôpitaux.
L'Union nationale des contractuels de l'enseignement professionnel et technique, UNACEPT de Zender, a décidé ce matin de la suspension de toutes les activités académiques jusqu'au paiement du pécule du mois d'octobre 2021. Boukari Salissou, le secrétaire général de l'Union section de Zender, est au micro de Mariama Nuhu.
Effectivement, on est en suspension de toutes les activités académiques. C'est suite au non-paiement des pécules du mois d'octobre. Comme il y a déjà la convention collective qui nous dit qu'à partir du 8, tant que l'agent n'est pas payé à partir du 8, donc il peut toutefois suspendre les activités académiques. Donc voilà ce qui nous a poussé à suspendre les activités. Le mot d'ordre est bien suivi. Je viens du terrain. J'ai constaté les gens vraiment ont respecté le mot d'ordre. Les gens sont déterminés face à leurs droits. La limite de notre mot d'ordre, c'est le paiement. Tant qu'il n'y a pas ce virement-là, il n'y a pas ce paiement-là, donc on ne reprend pas. Il n'y a pas une limite qui est là déterminée. Aujourd'hui, même s'il y a virement, on peut reprendre le chemin de l'école.
Parlons santé à présent. Ces derniers mois, la ville d'Agadez connaît une recrudescence de nouveaux cas de la COVID-19. L'on enregistre en hausse des malades et des décès, une situation qui s'explique en partie par le début de la saison froide et aussi le refus d'hospitalisation de certains malades, selon Youssouf Yadidi, directeur régional adjoint de la santé au micro d'Anissé Karim.
Nous sommes à 1004 cas positifs enregistrés dans la population parmi les 17 000 personnes testées. Malheureusement, parmi ces 1004 cas, 26 décès au niveau de la région d'Agadez à la date du 4 novembre 2021. Quand on a pris la situation de ces derniers mois, nous avons enregistré le plus grand nombre de cas, 53 cas positifs, dont malheureusement 9 sont décédés. Et nous avons actuellement, au niveau de notre centre de prise en charge, 23 malades qu'on est en train de suivre. Et sur les 23 malades, nous avons 19 qu'on traite à domicile, 11 qui sont hospitalisés. Et parmi les 11 qui sont hospitalisés actuellement, 6 sont en réanimation. Les formes que nous enregistrons ces derniers temps, ça tend à être plus ou moins des formes graves. Nous avons lié cette augmentation de ces derniers temps à la situation climatique qui règne, c'est-à-dire le début du froid. Ce qu'on déplore aussi, on a certains cas, quand on les dépiste positifs, surtout des cas autochtones, qui refusent l'hospitalisation.
1575, c'est le nombre de personnes déplacées de Bani Bangoué enregistrées à Balayara par la direction départementale de l'état civil des migrations et des réfugiés. Parmi ces déplacés, on dénombre plusieurs femmes et enfants qui ont déjà reçu le soutien de l'état et de ses partenaires. Madame Fatouma Soumana Yacouba, directrice départementale de l'état civil, au micro de Hassan Moumouni.
Les personnes déplacées de Bani Bangou vers Balayara, nous en avons compté au mois d'octobre passé 1079 ménages, dont entre autres 1026 femmes, 1070 enfants. Les femmes qui se prennent en charge sont au nombre de 136, ce qui fait en tout les hommes et les femmes un total de 5175 personnes. Ils sont dans une bonne condition parce que l'État leur a trouvé un abri. Les partenaires font de leur mieux aussi, ainsi que la population locale. Actuellement, il y a une équipe sur place qui veille sur leur bien-être.
L'éco-garde Soumaïla Hima a été libérée et accueillie le mardi 9 novembre à Torodi, région de Tillabéri, après plus d'un an et demi de détention aux mains d'un groupe armé non identifié. Il a été libéré sans condition, selon le directeur départemental de l'environnement de Torodi, commandant Abdoulaye Soumana, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Soumaïl Hima a été effectivement libéré. C'était une libération de leur gré. Apparemment, c'est comme un prisonnier qui, pour eux, a purgé sa peine et maintenant il est temps de le libérer et ils l'ont libéré. Eux-mêmes, ils l'ont pris, ils l'ont ramené sur la voie. Ils ont intercepté un véhicule de marché. Ils l'ont remis au conducteur du véhicule pour l'amener à Torodi. Ce qui fut fait, et c'est comme ça qu'on l'a récupéré avec le chauffeur. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu en tout cas aucun paiement de quoi que ce soit. Il était avec un militaire. Les deux étaient libérés le mardi soir en même temps. Mentalement, ça va parce qu'il a passé la nuit avec moi. Bon, pour quelqu'un qui était en détention durant plus d'un an, j'avais jugé utile de le présenter à un médecin. Il a en tout cas consulté, il avait des palus, il a fait le traitement nécessaire. Le matin, on l'a remis au niveau de la portion centrale.
Pour rappel, l'éco-garde Soumaïla Hima a été capturée le 11 mars 2020 dans le parc du W lors de l'attaque du poste de surveillance de Prélégou dans le département de Saï, région de Tillabéri. L'ambassade du Royaume-Uni, en collaboration avec le Centre culturel Jean Rouche de Niamey, a projeté hier soir un film documentaire sur le changement climatique et son impact sur la planète. C'est en rapport avec la conférence sur le changement climatique, la COP26, qui se tient à Glasgow, en Écosse. L'objectif est de sensibiliser les populations, notamment les jeunes, sur la nécessité d'agir face à ces phénomènes climatiques. Assoumana China a recueilli les réactions de quelques jeunes à la fin du film.
Après avoir suivi le film, on comprend aisément que la vie est en train de s'étouffer. Mais encore, c'est de notre main là, nous sommes en train de détruire ce monde-là, à travers nos actions.
Les choses sont sérieuses, on devrait tous prendre les mesures efficaces pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, essayer de recycler nos déchets. Nous devons prendre des mesures individuelles et collectives.
En tout cas, c'est vraiment choquant quand on voit comment l'être humain a détruit la nature. Il y a aussi les glaciers qui sont en train de s'effondrer sur les pôles. La nature est en train d'atteindre un point de non-retour, comme il l'appelle. Nous devons agir sur ça, d'essayer de limiter les dégâts qu'on est en train de causer sur la nature. Je pense que planter des arbres aussi va vraiment beaucoup aider et sur le changement climatique, amener d'autres perspectives qui vont dans le sens des énergies renouvelables.
Taburada Aventure, c'est le titre du film documentaire de la réalisatrice Nana Hadiza Akawala pour mettre en lumière la triste réalité de la migration des femmes du canton de Kantié dans la région de Zender. Dans ce film documentaire plein d'émotions, la réalisatrice espère faire changer la vision de la population de ce canton. Rabiu Galadima Daouda, natif de Kantié, donne son avis sur ce film au micro d'Olivia Sakbavi.
Le film, il est bon, il est excellent, parce que ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité. Et il est dissuasif, et il serait bon que ce documentaire soit amené là-bas, pour que les gens voient, pour qu'ils entendent la voix de la raison.
Les gens croient à l'Eldorado. Ils quittent chez eux, ils vont dans les pays du Maghreb, Algérie, Libye pour chercher l'or qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Et malheureusement, avant d'atteindre ces pays, c'est la désolation, c'est la mort. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'ils ont faim. Moi, je suis de là-bas. Je vis la réalité. Les gens quittent parce qu'ils ont vu d'autres partir. Il faut créer le travail, des projets qui vont sédentariser les gens.
Du sport, dans ce journal, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, affrontera demain les étalons du Burkina Faso à 14h au Maroc. C'est dans le cadre des dernières journées comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour rappel, au match aller, le Niger a été battu 2-0 par l'équipe du Burkina Faso. Malgré ces mauvais résultats du MENA, les supporters nigériens restent confiants. On les écoute au micro de Salamou Kadri.
Nous avons le courage d'aller supporter l'équipe du MENA. Nous n'allons pas nous décourager. Même si nous sommes battus, cela ne nous empêche pas de venir au stade les supporter et leur donner du courage. S'ils font un effort, Dieu fera le reste. Mais ce que nous voulons, c'est que les deux premiers buts ne les découragent pas.
Après tout ce qui s'est passé, après toutes ces déroutes-là, objectivement, je ne sais pas quels réajustements ont été faits ou pas, ce n'est plus le hasard. Voilà. On doit pouvoir tirer les leçons des matchs passé. Maintenant, c'est les couleurs nationales. Quelle que soit la situation, on sera derrière elles. Quelles que soient les analyses critiques qu'on fait, on est derrière elles. C'est comme on dit, qui aime bien châtie bien.
Bon, MENA, on est obligé d'aimer MENA. C'est le Niger. Et le match de demain, s'il plaît à Dieu, nous allons faire de notre mieux. Et nous allons gagner, ça c'est évident.
Qui gagne, mais
bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. La quantité de pluie, la sécheresse ou encore les invasions de cultures ont un impact considérable sur l'agriculture nigérienne. Selon le dernier bulletin d'information de la direction de la météorologie à la dernière évaluation à mi-parcours de la campagne agro-pastorale 2021 du pays, 15% des villages agricoles sont déclarés à risque. Les experts du cadre national pour les services climatique explique la situation au micro d'Olivia Sokbavi.
Les baisses de précipitations observées au mois de septembre au Niger ne sont pas sans conséquences sur la situation agricole et la sécurité alimentaire. On écoute Kachalu Lawan, directeur général de la météorologie, faire la situation pluviométrique du mois de septembre.
Pour le mois de septembre, nous avons assisté quand même dans beaucoup de localités à des baisses de précipitations, même comparées à la normale. Et surtout, ce n'est même pas en termes de quantité, c'est en termes de jours successifs sans pluie. Et donc, c'est sûr que ça va affecter, n'est-ce pas, le rendement dans ces régions-là surtout. Mais dans beaucoup de zones, il y a quand même des zones un peu localisées. Mais les plus importantes se trouvent quand même dans la zone ouest du pays, Etawa. Il y a plusieurs villages qui sont déficitaires et qui sont véritablement affectés et qui sont véritablement à risque. Mais de façon générale, vraiment, on a des situations, où, des zones où nous avons enregistré vraiment des records.
À l'issue de la dernière évaluation à mi-parcours de la campagne agro-pastorale 2021, sur les 13 046 villages agricoles suivis, 2085 sont des villages à risque. Comment expliquer cette situation? Amani Abdou est chercheur à l'Institut national agricole du Niger. Il répond.
Il s'agit précisément du retard des semis. Il y a également un certain nombre d'attaques d'ennemis de culture. Il y a aussi les longues pauses pluviométriques. Il ne faut pas aussi oublier la survenue d'un certain nombre d'événements, en particulier la chute des grêles qu'on a enregistrée dans la région du Maradi. Il y a aussi l'insécurité que nous sommes en train de vivre. Parce que cette insécurité-là fait en sorte que un certain nombre d'exploitations familiales, notamment les champs, n'ont pas été semés ou bien ont été semés et abandonnés. Il y a également des conflits communautaires. Donc quand vous examinez ces différentes raisons, la plupart, à peu près les 4 ou 5 raisons, sont liées à l'aléa climatique. On peut dire en résumé que cela est dû à l'irrégularité climatique.
Le climat change et il faut s'adapter. Quel conseil pour l'amélioration des rendements agro-pastoraux?
Il faut dans ce cas utiliser les variétés précoces qui sont capables de boucler leur cycle avec la saison des pluies ou même avant la fin de la saison de pluie et qui sont résistantes aux ennemis des cultures et résistantes aux strates hydriques. Il faut également songer donc à faire la promotion de l'agroforesterie, c'est-à-dire à faire la culture sous les parcs arborés. Il y a également donc un certain nombre de technologies climato-intelligentes, notamment les ailes agro ou bien les demi-lunes agricoles, là où ça se prête. Il faut nécessairement sécuriser le potentiel forager en ouvrant le plus tôt possible les pare-feux. Il ne faut pas attendre vers la fin de l'année. Non, dès au début, il faut ouvrir les pare-feux pour sécuriser donc le potentiel forager.
C'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.